12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
La magie de la comédie musicale, c'est de pouvoir, quand c'est réussi, nous raconter aussi bien la vie d'un très grand dramaturge français. Je vous parle de Molière, le spectacle musical de Devatia qui part en tournée dans toute la France. Qu'une histoire totalement déjantée d'horreur, de trash, de rock, de fantastique. Ça s'appelle le Rocky Horror Show qui s'est installé au Lido 2 à Paris jusqu'à fin avril.
Et on en parle avec vous, Emmanuel Dupuis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Diapason. Et on en parle avec vous, Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef de I.O. et productrice de la chronique Le Grand Tour sur France Culture. Bienvenue à tous les deux dans les Midi de Culture.
Et nous commençons ce débat critique avec Molière, le spectacle musical en tournée dans toute la France.
Regardez-moi, ne vous détournez pas. Mon amour, dans cette danse, on se tourne autour. À vouloir jouer avec le feu, on en oublie l'enjeu. On se moque, oui, on se moque de ce qu'ils pensent. À quelle époque célébrons nos différences? Oh mon âme.
Que peut-on bien raconter de nouveau sur Molière? Plus de 400 ans après sa naissance, pas grand-chose, me direz-vous. Ce spectacle musical, d'abord présenté comme un opéra urbain, raconte donc en premier lieu le Jean-Baptiste Poquelin, rebelle et intime. Celui qui refuse de devenir tapissier comme son père, celui qui se bat pour faire du théâtre et faire vivre sa compagnie, celui qui sera tiraillé par l'amour. Le second acte présente un Molière dramaturge, en prise avec les puissants, obsédé par l'écriture, la création et le Tartuffe. Le tout dans un spectacle musical, sans dialogue, tout est raconté. Vous l'avez entendu dans cet extrait, en chanson, pop, slam, rap, le producteur, colibrettiste et directeur musical du spectacle Devatia, qui avait déjà commis un opéra rock sur Mozart, on en reparlera peut-être, dit avoir voulu mettre la musique au service de l'histoire. Le pari est-il tenu, Marie Sorbier?
Bien, c'est une bonne surprise. Alors j'y allais avec plein d'a priori, c'est pas bien, mais je l'avoue.
C'est peut-être opéra urbain aussi, ça fait peur.
Opéra urbain, Devatia, dont je suis pas particulièrement fan des précédents opus. Vous parliez de Mozart, mais même tous les autres avant. Et en plus, avec un sujet comme Molière, ça faisait quand même beaucoup de warning allumé, en tout cas de ma part. Mais il se trouve qu'en fait, j'ai trouvé ça très efficace et même, je vais aller même un peu plus loin.
Allez-y.
Je trouve que ce spectacle donne une leçon et de rythme et de dramaturgie. Je vais parler surtout du livret, peut-être pour commencer. J'ai trouvé ce livret particulièrement bien écrit parce que il évite, à mon sens, un écueil qui aurait été rédhibitoire, c'est-à-dire de faire une espèce de pastiche des pièces de Molière. Or, c'est pas ça, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un spectacle sur la vie de Molière, sur l'homme, en fait. Et donc, tout est centré sur ses relations, qu'elles soient à son père, ses relations amoureuses, ses relations avec sa troupe, avec ses comédiens, avec les puissants, avec le roi et les ducs et les comtes, enfin, tout ce panel-là, ce qui permet d'en faire justement un spectacle musical, puisque le principe de ces spectacles-là, c'est de condenser dans un temps assez court des sentiments. C'est quand même des spectacles qui sont un peu sucrés, qui sont un peu sirupeux. Ça fait partie du genre, hein. C'est pas une critique dans ma bouche. Et donc là, le fait de prendre Molière du côté des émotions, eh bien ça marche bien, puisque le côté sucré marche. Et c'est vrai qu'il a une vie un peu, alors c'est pas une vie de super-héros, mais c'est quand même une vie
romantique.
Totalement romantique et romanesque. Donc ça marche très bien en comédie musicale. Et c'est quand même la première fois, moi, où je vois des gens pleurer sur la mort de Molière, parce que bon, la mort de Molière, on nous la raconte tous à l'école, hein. Molière est mort sur scène, même si c'est historiquement
spoiler, hein,
pas totalement vrai, mais peu importe. Et je trouve que même cette scène de fin qu'on attend tous, bien la salle remplie avait vraiment les larmes aux yeux, donc je vois là l'efficacité totale de ce spectacle.
Il y a, Emmanuel Dupuis, de la comédie, du drame dans ce spectacle, de la romance. Vous avez vous aussi été séduit?
Oui, moi j'ai été séduit, bien que moi aussi j'y allais avec pas mal d'a priori. Parce qu'en fait, un spectacle musical sur Molière, sans une note de Lully ou de Charpentier, qui sont les compositeurs qui ont travaillé pour Molière et avec Molière, bah oui, j'étais un peu perplexe quand même. Et puis finalement, j'ai quand même été convaincu, et en particulier par la musique, qui n'est pas d'une folle originalité, il faut bien le dire. Ça renverse pas la table, ça réinvente pas le genre, mais il y a un très grand savoir-faire. Il y a une écriture vocale qui est extrêmement généreuse, avec des mélodies qu'on garde longtemps en mémoire, qui sont très très efficaces. C'est surtout une écriture vocale qui respecte la prosodie, c'est-à-dire qui respecte les inflexions de la langue française, ce qui fait qu'on comprend absolument tout le texte, ce qui est tout à fait appréciable. Alors, sur la musique, moi, j'ai une réserve, c'est que l'accompagnement instrumental n'est pas joué par des musiciens...
En live. En direct.
Ce qui enlève évidemment une part de spontanéité. Cet accompagnement est donc pré-enregistré. C'est un accompagnement qui fait beaucoup de place au rythme, à la percussion, ce qui donne un côté très pulsé, très, très énergique à l'ensemble. Et c'est vrai que par moment, quand même, moi, j'aurais apprécié qu'il y ait un peu plus de moments élégiaques, qui permettraient d'apporter des respirations dans ce flux énergétique assez continu. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est que d'habitude, la comédie musicale, c'est une alternance. Deux scènes chantées, deux scènes parlées, deux scènes dansées. Or là, il n'y a pas du tout d'alternance. Tout se passe en même temps, en fait, et ce qui donne une très très grande continuité à l'ensemble, et ce qui donne aussi à l'ensemble un côté vraiment opératique. Il y a quelque chose de ça, et parce qu'en fait, en réalité, il y a très peu de dialogues parlés, et quand il y a des dialogues parlés, ils ne sont pas simplement déclamés comme au théâtre, mais ils sont slamés. Et ça, ce procédé, ça m'a rappelé un procédé qui existe à l'opéra depuis toujours, c'est le récitatif. Le récitatif à l'opéra, qu'est-ce que c'est ? C'est une forme de déclamation stylisée, c'est entre le parler et le chanter, et le slam, le rap, c'est pas autre chose en fait. Donc oui, il y a vraiment une dimension opératique, et une dimension opératique qui après est soulignée aussi par la mise en scène.
Maryse Robier, sur la dimension opératique.
Oui, c'est là où les mots sont importants, c'est-à-dire que c'est pas une comédie musicale qui est le mot réservé aux productions anglo-saxonnes, on en parlera peut-être dans notre deuxième sujet qui pour le coup en est une, et notamment les comédies musicales, la musique doit être live. Or là, comme ça vient d'être dit, ça n'est pas live. Donc on pourrait l'appeler ça un spectacle musical. Dovatia choisit d'appeler ça un opéra urbain.
Il a changé le nom d'ailleurs, c'était opéra urbain, puis c'est venu spectacle
opéra musical. Opéra rock, ça a une définition assez précise aujourd'hui. Vous parlez de Mozart, mais c'est aussi Starmania qu'on a pu revoir récemment, c'est-à-dire que tout est chanté aussi dans l'opéra rock, exactement pour ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que l'opéra, même dans le parler chanté, c'est quand même chanté. Là, la bascule vers opéra urbain, il faut quand même dire que les gens sont en costume du XVIIe siècle. Donc opéra urbain, c'est pas immédiat, j'allais dire, comme vision du mot, mais ça vient en effet de ce côté slamé et du fait aussi que la musique tire plus vers les musiques urbaines que vers le rock, comme pouvait être pour le coup Starmania. Donc le mot est utilisé à bon escient, mais c'est vrai que la musique non live enlève un petit côté spectacle vivant et performance, et le rapproche un petit peu plus des productions commerciales. Là où il est juste, je trouve, Dovatia, c'est que habituellement, j'allais dire, ces grands spectacles musicaux, il y avait un album avec 12 ou 15 titres, et puis ces 12 ou 15 titres étaient portés sur scène, et puis il y avait une dramaturgie autour, mais qui servait à porter
les titres,
les titres de radio. Là, c'est pas tout à fait le cas. Alors certes, il y a un album, mais il y a quand même plus de 50 titres, je crois, chantés en 2h30, et il y a 15 titres sur l'album. Donc on est bien au-delà du spectacle musical commercial. Il a tenté une forme qui, je trouve, est réussie. Musicalement, je voudrais quand même dire juste un mot sur l'interprète principal, celui qui joue Molière, qui s'appelle Petit Homme, qui est québécois, et qui, alors pour moi, je ne le connaissais pas, et je l'ai trouvé assez prodigieux, parce que non seulement il sait chanter, mais en termes de comédien, ça tient la route, franchement, il est crédible, et surtout, il a une espèce d'aisance corporelle.
C'est assez étonnante, oui.
Assez étonnante, il nous fait des saltos à un moment donné, il descend dans la salle, hein, parce que ça. Il y a une scène d'ailleurs, dramaturgiquement, en mise en abîme, qui est quand même pas mal, il y a une chanson, Tu finiras par tomber, et lui, c'est un peu la fin de Molière, c'est que ses copains lui disent, arrête, tu vas t'écrouler, quoi. Et finalement, il vient dans la salle, il saute sur les épaules de ses camarades de troupe et il fait le tour du public, donc debout sur les épaules. Et là, il nous fait des saltos comme ça, dans la salle, au milieu du public, au milieu des rangs. Il a un corps de circassien, il est vraiment très étonnant en termes de présence. Moi, je l'ai regardé avec plaisir.
Vous êtes d'accord, Emmanuel Dupuis, puisque vous dites oui de la tête. Et sur les autres interprètes, est-ce qu'il y a aussi des découvertes ?
Oui, enfin, globalement, effectivement, sur cette dimension physique, il y a un côté un peu comédia dell'arte dans le jeu d'acteur, tellement c'est chorégraphique, c'est physique, et c'est vrai que le triple saut périlleux de Molière sur scène, on se demande un peu d'où ça vient, mais c'est assez impressionnant. Mais tout à l'heure, je parlais de dimension opératique, et effectivement, cette dimension opératique est renforcée aussi par le spectacle, parce que il faut dire qu'il y a une mise en scène qui est absolument somptueuse, qui aurait tout à fait sa place sur une scène d'opéra, franchement.
Sidney l'a dit ça,
Pardon ?
Signé la Dissaciola, oui, cette mise en scène. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette mise en scène ?
D'abord, il y a un décor absolument magnifique. Un décor qui représente le cadre de scène d'un théâtre, avec des praticables, des ponts, des escaliers, ce qui permet une occupation de l'espace absolument maximale. Au fond, il y a des paysages ou des architectures qui sont projetées et qui sont en grisaille, c'est-à-dire comme s'il s'agissait de gravures, c'est franchement assez beau. Et ce décor va devenir de plus en plus somptueux au fur et à mesure de la progression de l'action. Parce que notamment quand la troupe de Molière arrive à Versailles, alors là, c'est un éblouissement. Mais tous ces changements se font à vue, sans temps mort. Et là aussi, ça contribue à la très grande fluidité du spectacle. Après, bon, il faut dire, par rapport à la narration, Marie en parlait tout à l'heure, c'est une narration qui suit assez scrupuleusement quand même la vie de Molière, même si c'est romancé évidemment pour les besoins du spectacle. Mais enfin, bon, quand on a grandi avec le Molière d'Ariane Mouchkine comme moi, on n'est absolument pas dépaysé. Ça suit vraiment tous les épisodes. Et pour autant, les thèmes politiques ne sont absolument pas éludés, et notamment l'opposition entre Molière et les dévots, ça c'est vraiment très très présent dans la narration.
Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que Tartuffe, c'est peut-être la pièce dont on parle le plus. Alors il y a des petits extraits des Précieuses Ridicules, il y a évidemment Le Malade Imaginaire à la fin, mais c'est vraiment comme ça évoqué. Par contre, la pièce qui revient le plus souvent sans être jouée, encore une fois, c'est le Tartuffe, qui obsède complètement Molière, et je trouve que cette obsession est très bien rendue. On comprend bien la problématique avec l'Église, avec l'État, est-ce qu'il a le droit de jouer ou pas, et lui qui se meurtrit, enfin, vraiment totalement, parce qu'il ne peut pas jouer cette pièce qui est selon lui son chef-d'œuvre. Ça, je trouve que c'est vraiment très bien rendu.
Alors, vous nous avez parlé des acrobaties de l'interprète principal de Molière, Petit Homme. Il y a également Morgane qui joue Madeleine Béjart, Abby Bernadotte pardon, qui joue le prince de Conti et d'autres. Qu'est-ce qui se passe scéniquement sur scène en termes de danse, puisque c'est aussi ça la comédie musicale. Emmanuel nous a parlé des décors qui racontent effectivement la cour de Louis XIV, les rues de Paris, Versailles, la troupe des comédiens, le théâtre, tout ça. Mais et la danse, qu'est-ce qu'on a face à nous, Marie Sorbier et Emmanuel?
Alors,
ensuite,
c'est vraiment un spectacle où on remonte dans le temps, alors pas tellement au 17e, enfin aussi au 17e, mais pas que, mais aussi dans les années 2000. Moi, j'ai revécu, vous savez, ces comédies musicales au moment où l'apogée des comédies musicales dans les années 2000.
Il y a Notre-Dame de Paris,
voilà, les 10 commandements de Bobatia, d'ailleurs.
Les 10 commandements, il y a un son très Goldman, vous voyez, c'est ce genre de musique-là, qu'on retrouve. Et en chorégraphie, on retrouve un peu les archétypes de ces comédies musicales, c'est-à-dire des grands ensembles qui sont quand même très bien effectués. Hein, je parle d'archétypes, mais c'est bien fait, quoi. Après, avec ces grands ententes, ces gestes très efficaces, les chanteurs qui dansent également avec des danseurs qui envahissent la scène. Il y a beaucoup de monde sur scène, donc ça donne une impression, encore une fois, opératique d'ailleurs, parce que il peut y avoir jusqu'à 30 interprètes, danseurs sur scène. Donc voilà, ça fait de la masse. Et ce sont des chorégraphies qui sont pas là non plus très originales. On n'est pas sur une œuvre de création au sens premier, c'est pas novateur. Seulement, ce qui est fait, c'est bien fait, c'est très efficace et c'est très plaisant à regarder. On les suit avec plaisir, c'est hyper rythmé, c'est joyeux, c'est généreux.
Emmanuel Dupuis, pour conclure.
Oui, non, mais je partage totalement. Et sur la dimension chorégraphique, effectivement, bon, c'est un langage chorégraphique en fait qui réalise très bien la synthèse entre un vocabulaire classique et les danses de rue. Et c'est exécuté effectivement avec une remarquable maîtrise individuelle et aussi effectivement maîtrise collective. Les ensembles sont réglés, mais vraiment comme de l'horlogerie. C'est vraiment très très agréable à regarder.
Mon amour, dans ses danses on se tourne autour. Même si le jeu est dangereux, on pourrait le gagner à tort. Mais mon amour, dans ses danses on se tourne autour.
Molière, le spectacle musical sur une idée originale de Dov Attia, auteur du livret, producteur délégué à l'artistique et directeur musical du spectacle, mise en scène Ladislas Chola, chorégraphie Romain Herbert, en tournée dans toute la France, en Belgique, en Suisse, jusqu'au 19 octobre 2024.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Nous parlons à présent du Rocky Horror Show, présenté en anglais jusqu'au 21 avril au Lido 2 à Paris.
Si vous ne connaissez rien à Rocky Horror Show, laissez-vous porter. Sachez que ce titre, Time Warp, est un grand classique, un standard de cette comédie musicale, un hymne de la pop culture, un spectacle déjanté, une œuvre iconoclaste qui fait donc rencontrer le glam rock et le fantastique. Voici l'histoire. Brad et Janet doivent se marier quand, par une nuit d'orage, leur voiture tombe en panne. Ils frappent alors à la porte d'un château pour utiliser le téléphone et rencontrent le maître des lieux, Frank Enfurter, qui ambitionne de créer son homme idéal. Les deux heures de show se transforment alors en expérience déjantée, sexuellement débridée et pleine d'humour. Créée en 1973 par Richard O'Brien à Londres, jouée à Paris en 75 en français avec les paroles d'Alain Boublil, c'est une version en anglais surtitrée du Rocky Horror Show que vous avez découvert, Emmanuel Dupuis, au Lido 2. Est-ce que vous avez été séduit par cette folie ?
Oui, complètement.
Vous dites ça très sérieusement, allez-y.
Oui, non, mais complètement. Et la folie, bon, il faut préciser que la folie, elle est sur scène, mais elle est aussi dans la salle. Parce que ça, c'est une des particularités de ce spectacle. C'est qu'en fait, c'est un spectacle qui a tellement tourné depuis sa création il y a un demi-siècle maintenant. Et puis, il y a eu aussi un film qui a été tiré de cette comédie musicale. Un film qui lui aussi a eu énormément de succès. Et finalement, le public a fini par s'approprier complètement le spectacle, par inventer ses propres répliques. Et alors effectivement, c'est assez surprenant. Il faut être un peu quand on n'est pas prévenu, c'est vrai que on tombe un peu des nus. Moi, je suis arrivé au Lido, j'ai vu des gens déguisés qui venaient.
Alors, déguisés en quoi ?
Alors déguisés en créatures. Parce qu'en fait, bon, à l'origine, c'est quand même ça commence comme une parodie de film d'horreur. Donc il y avait des gens qui avaient des costumes comme ça un peu qui évoquaient un peu gothique quoi. Qui évoquait les films d'horreur. Et les gens intervenaient, apostrophaient les comédiens. Il y avait des échanges entre les comédiens et certains spectateurs. Et puis à la fin, les gens dansaient, chantaient, etc. Donc c'est vraiment une expérience. C'est l'art total, hein, d'une certaine manière.
Marie Sorbier, sur cette expérience effectivement que vous avez découverte aussi.
Ah, tout à fait. Alors moi, c'est ce qui m'a passionnée dans ce spectacle. C'est-à-dire que c'est un des rares spectacles de ma vie où j'ai vu le quatrième mur complètement aboli. C'est-à-dire que cette fois, ça n'existe plus. Enfin, je veux dire, le mentionner même est une hérésie. Les gens au Lido, donc je dirais qu'il y a à peu près la moitié du public déguisé. Alors, c'est très queer, il y a beaucoup de barésie, de porte-jartelle, de petits costumes d'infirmière, en effet un peu ensanglantés. Enfin, c'est complètement gothico, trash, glam, je dirais, voilà. Des gens aussi d'un certain âge, hein, c'est parce qu'en effet, le show ayant 50 ans, il y a des fans qui tournent depuis avec la tournée, donc il y a aussi des gens de 70 ans et plus habillés comme ça, donc c'est quand même très surprenant d'arriver là. Et moi, ce qui m'a fascinée, c'est le jeu entre ces chanteurs et acteurs et le public, parce qu'ils devancent les répliques. Il y a quand même un jeu de ping-pong comme ça qui s'est fait pendant 50 ans, donc il y a comme un double livret, un livret secret, mais qui est pas secret, enfin qui est secret pour moi, mais pas pour les gens qui étaient là, qui arrivent à devancer, ou alors il y a des surnoms qu'ils donnent aux personnages. Donc dès qu'un personnage entre en scène, on entend plein de gens crier, je sais pas quoi, enfin ils ont plein de surnoms, donc c'est très surprenant. Et c'est vraiment le spectacle est en effet partout, et c'est un grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'histoire, vous l'avez résumé, mais vous l'avez résumé très sagement, parce que, en fait, tout ça se passe aussi sous couvert de science-fiction, parce que finalement, tous ces braves gens sont des extraterrestres, hein, c'est ce qu'on va apprendre à la fin. Il y a une bataille de sabre laser. Enfin bon, vous voyez, il y a tout, quoi. On est vraiment sur la série Z totale, et ça, c'est d'une liberté folle. Et je me suis dit quand même qu'on n'avait plus beaucoup aujourd'hui de pièces qui avaient une telle transgression jubilatoire et libre. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent complètement. Il n'y a pas de message. Je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai vu quelque chose de complètement ouvert, libre, moche, et on s'en fout. Les décors, par exemple, en carton pâte sont complètement cheap.
Mais ça fait partie du spectacle.
Ça fait partie du truc. Ça va complètement dans cette ambiance-là. Et puis, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est cette communauté qui s'est formée depuis 50 ans. Parce que ce qu'il faut dire, vous parliez du film, mais le film, lui, la France est le seul pays, et Paris est la seule ville au monde à avoir continué depuis 1975 à projeter ce film tous les week-ends au Studio Galante dans le 5e arrondissement. Donc, depuis bientôt 50 ans, ce film est projeté tous les week-ends. Et quand on arrive au Studio Galante et qu'on prend son ticket pour aller voir ce film, on nous donne une petite bouteille d'eau et un sac de riz. Parce que l'interaction se passe aussi avec des éléments extérieurs. Donc quand il pleut, il y a un orage, et bien tous les spectateurs jettent l'eau sur l'écran. Et le mariage, hop, on jette du riz. Donc l'interaction fait vraiment partie de l'ADN de ce show.
The Rocky Horror Picture Show, c'est les vendredis et samedis à 21h au Studio Galante, justement pour voir le film dans lequel jouait d'ailleurs Richard O'Brien, qui a donc créé les paroles, le livret, et qui a composé la musique de ce spectacle dans les années 73, Emmanuel Dupuis. Marie Sorbier disait, il n'y a pas de message dans cette comédie musicale. Vous ne sembliez pas d'accord?
Oui, parce que, bon, à la base, bon, le Rocky Horror Show, ça se veut une parodie de films de série B, de films d'horreur et de films de science-fiction de série B. Mais à mon avis, c'est quand même bien plus que ça. Il y a quand même ce que je retiens surtout, c'est le côté libertaire. Et en ce sens, la pièce est vraiment ancrée dans son époque, c'est-à-dire les années 70, où effectivement, toutes les digues sautaient. Parce qu'en fait, sur le plan de la forme, c'est quand même là on revient à quelque chose d'assez conventionnel avec là l'alternance traditionnelle entre scène parlée et
dialogue chanté.
Et musique live.
Et musique live, effectivement. Mais sur le plan de la forme, c'est conventionnel. En revanche, sur le plan du fond, alors là, c'est toutes les digues sortent, les digues de la morale, les digues de la bienséance, les digues de la sexualité, les digues du genre. C'est complètement libertaire, quoi. Mais en même temps, ce côté libertaire, même si c'est ancré. Si c'est typique des années 70, ça n'a pas vieilli, parce que malgré tout, dans nos sociétés, cette tension entre un certain ordre moral et une liberté revendiquée, elle existe toujours. Donc ça marche toujours très, 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 très bien. Quant à la musique, là aussi, ça marche très bien aussi grâce à la musique. C'est une musique qui est très, très bien écrite, avec, comme on l'a entendu dans le petit extrait tout à l'heure, une tonalité rock assez affirmée, mais pas seulement. Il y a aussi, là, on retrouve une variété avec des moments élégiaques, des ballades, moi j'ai trouvé des moments de grande poésie. Par exemple, au début et à la fin, il y a une ouvreuse qui est en scène, qui s'adresse au public et qui chante et avec beaucoup de délicatesse. Moi j'ai trouvé ça extrêmement poétique. Alors que souvent, c'est pas poétique du tout, c'est au contraire très trash, quoi.
N'en rêvez pas, soyez-le. C'est le metteur en scène de cette version qui est jouée au Lido 2 qui le dit. Christopher Luscombe, qui explique aussi qu'effectivement, chaque représentation est de fait, parce que vous venez de décrire, complètement unique. Sur les thématiques aussi, Marie Sorbier, Richard O'Brien disait s'être inspiré aussi de ce qu'il avait vécu, puisqu'il se définissait lui aussi comme 70% masculin, 30% féminin. Donc, la question du genre, déjà dans les années 70, peut-être que du coup, aujourd'hui, comme on disait que c'est toujours un spectacle actuel, ça continue de parler et de faire réfléchir.
Ah oui, complètement. D'ailleurs, on se pose pas vraiment la question. Sur cette fluidité du genre qui est représentée, mais encore une fois, de façon très légère. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup surpris et beaucoup plu. C'est-à-dire que le personnage principal, le fameux Frankenfurter, alors qui est attendu comme le messie, hein, c'est-à-dire que la salle se chauffe, puis lui entre en scène, je sais pas, peut-être au bout de 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, qu'il faut le temps qu'ils entrent dans le manoir, il arrive. Et là, moi, je sentais la tension. C'est-à-dire que les fans attendaient ce moment-là pour décider si oui ou non cette version-là de cette comédie musicale serait acceptée, quoi. Parce que c'est lui qui porte quand même une espèce de poids symbolique. Et donc, il arrive, une espèce de cape, il ouvre sa cape, et là, il est en porte-jartelle, barésie, plein de choses, voilà, comme ça. Et puis, il va rester en petite robe, en machin comme ça. Mais ce qui est très beau, c'est que c'est du travestissement, mais c'est toute la richesse du travestissement. C'est-à-dire, c'est pas un travestissement caricatural, c'est un travestissement qui déborde largement, encore une fois, là aussi, les frontières du genre. Et ça, c'est quand même très beau. D'ailleurs, lui, je tiens à le nommer, comment il s'appelle, Stephen Webb, qui a quand même une voix aussi incroyable et qui a été justement adoubé, en tout cas le soir où j'étais, par toute cette communauté. Donc, c'était plutôt chouette.
Emmanuel.
Oui, non, mais bon, il faut souligner quand même l'excellence du jeu d'acteur, parce que toute la mise en scène, là, ne repose pas sur le côté spectaculaire, sur le décor, qui est quand même assez minimaliste, mais qui est efficace, qui marche bien. Et puis, il y a aussi un travail sur la lumière qui souligne tout ça, qui est assez impressionnant. Mais tout repose effectivement sur le jeu d'acteur qui est virtuose, franchement virtuose, parce que tout est dans l'autodérision, les jeux de mots, c'est plein d'allusions salaces. En fait, c'est de l'humour britannique poussé à son paroxysme.
Et ils doivent prendre en compte les réactions du public, puisque le public les invective en permanence. Donc, il y a aussi une adaptabilité qui est incroyable, alors que la pièce est quand même mise en scène aussi au cordeau. Donc, c'est très virtuose.
Oui, tout à fait.
Dans le grand n'importe quoi.
On sait qu'au Lido 2, le directeur Jean-Luc Choplin tient à la langue, à la version originale et à la version anglaise. Je parlais des paroles d'Alain Boublil en 75 en français. Évidemment, on n'y est pas, mais c'est important d'avoir cette troupe britannique et cette langue anglaise, Marie Sorbier.
Oui, je trouve que ça change tout. On l'a dit tout à l'heure, le mot comédie musicale, ça vient de la comédie musicale anglo-saxonne. En France, on appelle ça autrement. Et donc, le fait que ce soit avec une troupe anglaise et en anglais, oui, ça me semble complètement nécessaire. Surtout ce spectacle-là qui est en effet truffé de références et de jeux de mots qui sont quand même un peu plus compliqués à traduire en français. Et les sous-titres suffisent largement pour suivre
l'histoire,
qui est quand même complètement déjantée, donc même si on la suit pas très bien, c'est pas très grave.
Il y a des petites références francophiles dans ce spectacle ou
non,
pas là, non, on n'est pas sur
non, on est vraiment effectivement dans un côté assez très très british en fait et c'est très bien parce que c'est l'ADN du spectacle d'une certaine manière. Donc le fait que ce soit chanté et dit en anglais, c'est une très bonne chose. Et le fait qu'il y ait des musiciens sur scène, enfin à l'arrière scène, on ne les voit pas vraiment, ils sont en surplomb au-dessus du décor. Ça aussi, ça
change tout.
Ça change tout, quoi.
Je savais que vous diriez ça. Je le savais.
Mais évidemment, ça apporte une spontanéité. Enfin, c'est du spectacle vivant, tout simplement. Quoi.
Rocky Horror Show, donc de Richard O'Brien et Christopher Luscombe, c'est jusqu'au 21 avril prochain au Lido 2 à Paris sur les Champs-Élysées. On vous met bien sûr toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci à tous les deux, Emmanuel Dupuis. On vous lit dans le magazine Diapason. Marie Sorbier, on vous découvre. On découvre tous les soirs votre reportage à 19h50. Je suis perturbé par le Rocky Horror Show. Ça s'appelle Le Grand Tour et c'est sur France Culture. Donc, ce débat critique. Tous les autres sont en réécoute sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.